France Culture.
Les nuits de France Culture.
La solitude n'a pas d'âge. Si l'on pense souvent aux personnes âgées, elle frappe toutes les catégories de la population. Les parents, les enfants, les chômeurs, les vieux, les jeunes. Elle n'est pas pour autant sans cause, sans facteurs aggravants. Une précarité matérielle, financière, augmente considérablement le risque de solitude. On est confronté à des problèmes de logement, de mobilité. On vit au jour le jour en tentant de gagner de quoi manger, sans avoir le temps ou l'énergie de rencontrer quiconque. Élever des enfants dans un tel contexte est également un exercice extrêmement complexe, surtout pour un parent seul. Toute forme de maladie ou de handicap est également un facteur d'isolement. La société ne s'est pas équipée pour apprendre à intégrer celles et ceux dont la mobilité est réduite ou dont la souffrance est trop pénible à regarder. Nous ne sommes donc pas égaux devant la solitude, comme le montre ce numéro de Grand Angle de Dominique Rousset, réalisé par Brigitte Aléo. On y retrouve les analyses de Jean-François Six et Françoise Dolto, mais aussi des intervenantes du monde associatif. Dominique Claire, dont l'association a mis en place l'entraide scolaire amicale, ou encore Martine Brousse, de l'association Enfance et Partage. L'occasion de constater le maillage indispensable du problème de la solitude par ces associations qui interviennent là où les autorités publiques n'apportent aucune réponse. Une émission diffusée pour la première fois le 12 avril 1986 sur France Culture.
Grand Angle, Dominique Rousset.
Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas un pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Oui, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou, elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout elle me fait escorte, elle me suit pas à pas, elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La solitude, la solitude.
Grand Angle, la solitude pour compagnie. Enquête de l'Institut national des statistiques publiée en 1984. 19 millions de ménages en France, le ménage représentant l'ensemble de personnes vivant sous un même toit. Parmi ces 19 millions, 4 800 000 ménages ont un seul habitant. Dans l'agglomération parisienne, la moitié des foyers comportent un seul habitant. Par ailleurs, l'augmentation des divorces, multipliée par 2 en près de 10 ans, l'augmentation du nombre des mères célibataires, donne de plus en plus de foyers avec un seul parent. Enfin, le nombre de célibataires de 20 à 34 ans a connu une forte augmentation en quelques années, plus de 23%, ils sont aujourd'hui 5 millions. En quelques chiffres, l'évidence d'un vrai phénomène de société apparu en France en cette fin de siècle, partagé d'ailleurs par l'ensemble des pays industrialisés, la solitude. Vivre seul n'est pas bien sûr souffrir de la solitude et l'on peut choisir ce que la Boétie nommait cette servitude volontaire et même en tirer profit. Il n'empêche, pour beaucoup, pour le plus grand nombre, la solitude est une prison au mur épais. Difficile d'ouvrir ses portes, difficile d'obtenir les clés, difficile même d'entendre les sons de l'extérieur. Ils existent pourtant. Pour Jean-François Six, qui a étudié de très près ce phénomène au sein de l'Union des associations en lutte contre la solitude, il faut commencer par connaître, par repérer, ce qu'il nomme les populations à haut risque.
dans l'ensemble de la population française, il y a des lieux de plus grande solitude. Alors on pense tout de suite aux personnes âgées. Et c'est évident que les personnes âgées, et tout particulièrement les femmes, puisque l'espérance de vie chez les femmes est plus grande que chez les hommes, donc il y a une solitude. Et vous savez que dans les 10 ans qui vont venir, le nombre des plus de 85 ans va doubler et va passer à plus d'un million. Donc c'est énorme. Mais paradoxalement, souvent j'ai rencontré des femmes seules qui avaient une grande capacité de maîtriser leur solitude et même de la rendre créatrice. On a oublié souvent que les jeunes étaient une population à haut risque de solitude. Nous avons fait une enquête avec le Pèlerin, avec Fondation de France, il y a un an et demi. C'est la première enquête qualitative sur la solitude. Et c'est très frappant de voir que les gens ont oublié que les jeunes peuvent être seuls. On parle des personnes âgées, des femmes, des immigrés, des handicapés. Bon, les handicapés ont beaucoup d'associations, beaucoup d'aides, et c'est très bon, très important. Là, il y a une prise en charge formidable. Mais les jeunes, quand on regarde les problèmes de jeunes, quand on voit que depuis 10 ans, le nombre des suicides de jeunes de 15 à 24 ans a doublé, ce qui est vraiment énorme, et qui indique une très grande solitude. De même, l'attrait de sectes, ou la drogue, ou l'alcool, ce sont des phénomènes que l'on rencontre, hélas, chez pas mal de jeunes, et qui sont un indice extrêmement fort de solitude. Ce qui fait que les jeunes, devant la culture des adultes, se sentent en porte-à-faux, se sentent pas compris, bien sûr, les adultes aussi ne se sentent pas compris, mais les jeunes doivent un peu créer une nouvelle situation dans la société, une nouvelle insertion sociale. Le fait que des adultes n'embauchent pas des jeunes, c'est souvent parce qu'il y a une sorte de difficulté de compréhension entre deux cultures. Et ça, c'est un phénomène extrêmement grave, et tout particulièrement en France. Alors, vous voyez des chômeurs qui passent à la délinquance. J'entendais hier des statistiques. La délinquance chez pas mal de jeunes, ce sont pour 37% des jeunes qui vivent seuls.
Il y a des jours, je me dis, il y a un climat, il n'y a pas à dire. Oh, il y a des jours d'avarie, à se faire sauter la pompe à vie. Il y a des jours, je me dis, il y a un climat de fin du monde. Cette nuit sera ta dernière nuit, ta dernière bière, ta dernière blonde. Alors je m'écris des lettres de menace, et je me suis à la trace, pas à pas, haut les mains. Je me hais certains matins, alors je me dis j'ouvre les vannes, je rêve d'être un delta plane. Pour m'envoler au-dessus du monde, une trompette à la main, une trompette à la main.
Parler de la solitude, c'est dénoncer du même coup un certain échec de la famille, la diminution du nombre d'enfants, les séparations, la migration vers les villes, mais aussi, dans le même temps, l'augmentation des prestations individuelles, des pensions et des prises en charge par la sécurité sociale, encourageant une moindre responsabilité devant, par exemple, des parents âgés. D'autres facteurs moins visibles peuvent contribuer en 1986 à l'isolement progressif de l'individu dès son plus jeune âge. C'est du moins l'avis de la psychanalyste Françoise Dolto.
Je pense qu'il y a des nourrissons dans notre manière de vivre actuellement qui souffrent de solitude, chose qui ne devait pas exister autrefois. Il a besoin de silence la nuit, comme les adultes, comme il avait quand il était dans le ventre de la mère. Mais une fois qu'il est né, même s'il dort dans la journée, il a besoin de dormir dans la vie. À la rigueur que la sieste, à l'heure du déjeuner, on la lui laisse solitaire parce que la mère a besoin de repos. Mais ce n'est pas l'enfant, parce que s'il a sommeil, il dort partout.
Il y a aussi une solitude de l'enfant, mais qui a été révélée et étudiée à plusieurs reprises, c'est la peur de l'enfant d'être seul. Enfin, c'est une des grandes peurs de l'enfant tout de même, d'être abandonné,
mais
d'être
oui.
brusquement sans parents ou débranché, l'enfant absolument. Perdu dans la forêt.
Mais oui, c'est un fantasme, c'est une expérience qui se représente par l'idée du fantasme, mais c'est vraiment éprouvé par l'enfant qui est, ne sait pas du tout comment on peut se débrouiller avec rien. Il est complètement tributaire des adultes. Alors, C'est tout à fait normal que ces enfants, justement, par l'expérience des moments de solitude, puissent métaphoriser ça par les histoires de forêt, de danger.
Est-ce que l'enfant aujourd'hui, d'après vous, est plus confronté à la solitude qu'il est autrefois? Enfin, je parle là de l'enfant plus âgé.
Je crois que oui, il est confronté à une solitude qui n'a pas de représentation et que c'est ça qui donne ces phobies qui sont l'apanage des enfants qu'on appelle psychotiques ou enfin, très névrosés. Et si un enfant est dès le début de sa vie est dans la communication et qu'il y reste dans la communication, ben, ça n'arrive pas. Ces états mentaux de déréalisation de la communication aux autres, ça arrive à cause des périodes insupportables et trop longues, sans avoir été parlé, d'absence de la personne sécurisante.
Des fois, le mercredi, je m'ennuie, parce que je suis tout seul à la maison.
David,
ma mère, elle n'est pas là, mon père non plus.
10 ans.
Enfin, elle n'est pas en France. Puis, je regarde la télé.
Et puis tu l'éteins, et puis tu la rallumes un peu plus tard.
Oui. Ouais. Je joue un peu, et après, je regarde encore la télé. Puis, c'est tout.
Naturellement, maintenant, de nos jours, il n'y a plus que la télévision, et qui est une très grande solitude. Pour beaucoup d'enfants, la télévision ne fait qu'augmenter leur sentiment de solitude. C'est une espèce de distraction des yeux, mais qui ne les nourrit pas. Il y a d'autres enfants qui sont au contraire tout à fait alimentés par la télévision, et ce sont ceux dont les parents se sont occupés quand ils regardaient des films avec eux et qui leur ont enseigné à voir un film et à en garder mémoire et en parler avec eux. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ne le mettent que pour entendre du bruit, dont ils ne se souviennent jamais de ce qu'ils ont, ni de ce qu'ils ont vu, ni de ce qu'ils ont entendu. Alors là, c'est une solitude, j'allais dire bête, dans le sens de bête qui ne parle pas. Ben, c'est, puisque la télévision n'a pas été pour eux le langage qui prouvait la rencontre de quelqu'un.
Je trouve toujours quelque chose à faire. Comme j'aime bien lire, je lis ou j'écoute la musique.
Karine.
Puis je fais mes devoirs, je fais plein de choses.
13 ans.
Pourquoi quelle chance? Parce qu'il s'ennuie pas. Quand même. Moi, j'aimerais bien pas m'ennuyer. Hein.
Stéphane.
Ouais, bah, moi, c'est facile. Moi, j'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer, franchement. Franchement, non, je me suis. Non, souvent, non, presque jamais ennuyé. Je trouve toujours quelque chose à faire. Que ce soit, bon, moi, bien sûr, pour l'école, souvent, je cherche autre chose que les travaux de l'école, parce que, bon. Mais j'ai souvent. C'est très rare que je m'ennuie, franchement. Très franchement, hein, je réponds franchement. Je suis aussi très rarement tout seul.
Ah.
Plus souvent, on fait les devoirs entre copains, on va se promener entre copains, on fait du sport entre copains, mais rien de plus. Mais vraiment s'ennuyer, non, c'est très rare.
Vous avez l'impression que les gens, les enfants, à Paris par exemple, parce que Paris, bon, c'est vrai que les parents souvent travaillent, donc rentrent un peu tard et tout ça, vous avez l'impression qu'il y a des enfants qui se sentent un peu seuls, qui ont besoin d'avoir leurs parents plus souvent? Ou des copains, peut-être.
Je vais modifier un peu votre question. Souvent, on voit, c'est parce que j'ai appris ça en histoire géo, parce qu'on avait fait une enquête justement sur Paris. Il y a plusieurs parents qui ne sont pas chez soi et qui ne veulent pas que leur enfant prenne un sport ou une activité, quoi. Et donc, c'est sûr que, bon, bah, franchement, lorsque leurs enfants rentrent chez soi, très souvent, ils n'ont rien à faire. Et leurs parents rentrent quand même assez tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui rentrent assez tard du travail. Mais ça vient souvent... Bon, bah, les enfants s'ennuieraient moins s'ils avaient quelque chose à faire, mais qu'ils aimeraient vraiment le faire. Ce serait plus chouette. Mais les parents écoutent très rarement leurs enfants. Ouais,
Alexandre, oui. Romain, oui.
Oui, je crois qu'il y en a pas mal. Enfin, souvent, j'ai des copains qui sont tout seuls en rentrant. Et de temps en temps, ils viennent chez moi pour qu'on s'amuse.
Oui, il vient chez toi parce que toi, tu as des parents chez toi.
Oui, et puis c'est pas que j'ai des parents, mais comme ça, on est ensemble.
Thank you.
Dominique Claire, donc votre association a créé un système d'entraide scolaire, c'est son nom,
oui.
Et qui en fait veut aider les enfants à faire leur travail en sortant de l'école, les parents n'ont pas toujours d'avoir la possibilité ni le temps de le faire.
Voilà, c'est exact. C'est d'ailleurs l'entraide scolaire amicale, j'insiste beaucoup sur le troisième mot, parce que ce sont des étudiants et des élèves de première et terminale qui vont à domicile aider des enfants que justement leurs parents ne peuvent pas aider pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ne sont pas là, parce que la vie est chère et que les leçons sont extrêmement sont très chères.
Alors qui sont les enfants en principe que vous voyez ?
Les enfants que nous aidons sont des enfants que les assistantes sociales nous signalent parce que justement ils ont des problèmes souvent de toutes sortes, ils ont quelquefois des difficultés familiales et donc des difficultés à travailler seuls. Et nous travaillons avec les assistantes sociales en très bons termes, mais chacun reste dans son travail bien, bien précis. Encore que nous pouvons nous entraider justement parce que des problèmes sortent et sont liés. Mais enfin, nous restons quand même toujours, nous ne marchons pas sur les brisés les unes des autres. Voilà.
Karine, vous devez aussi suivre des cours, enfin travailler un petit peu à la sortie de l'école, c'est ça ? Depuis combien de temps ?
3 ans, surtout en mathématiques.
Quand vous sortez de l'école, alors qu'est-ce que vous faites tous les jours ? Puisqu'il y a une seule fois où vous suivez des cours, c'est ça ? Enfin, vous faites travailler ?
Chez moi, je fais mes devoirs.
Et qui y a-t-il chez vous ?
Une personne.
Martine Brousse, l'association Enfance et Partage a une ambition un petit peu différente, puisque vous vous occupez aussi des enfants que vous jugez un petit peu isolés dans la vie, pour différentes raisons.
Oui, entre autres, nous avons Enfance et Partage a d'abord une action humanitaire dans 23 pays dans le monde. Et puis, nous n'avons pas pu rester insensibles à tous les phénomènes et situations parfois difficiles d'enfants en France. Donc, nous avons élargi un peu notre action et nous avons une action en France. Nous pensons qu'il est important que, d'une part, tout enfant ait une famille. Et donc, nous aidons énormément au placement d'enfants dans les familles, des enfants qui sont en institution ou qui nous sont signalés en difficulté dans leur propre famille. Donc on crée un relais entre la famille d'origine et une famille d'accueil. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un grand problème d'enfants seuls actuellement dans la rue. On retrouve beaucoup, quand on se promène le soir dans certains quartiers, des enfants qui jouent jusqu'à 11h, minuit dans la rue, en attendant que soit les parents soient rentrés, soit qu'il y ait quelqu'un, soit parce qu'ils n'ont pas la clé. Avant, c'était des plus grands. Maintenant, ça commence vers 9, 10 ans. Je pense que ce sont des enfants qui ont des problèmes de solitude, mais qui compensent. Alors, ils vont compenser en se retrouvant en bande. Mais il n'empêche que les carences affectives vont ressortir plus tard.
Alexandre ?
Moi, je suis assez d'accord. On avait dernièrement à la maison, on s'était occupé un peu d'un garçon qui avait des problèmes chez lui. Son père n'était pas chez lui. Il avait des problèmes avec sa mère et ses frères. Et il était emporté par des jeunes aussi qui tiraillaient un peu de tous les côtés. Et lui aussi, il traînait un peu dans la rue. Il était dans plusieurs foyers. Mais il ne pouvait pas tenir plus d'un an sans faire des fugues et tout ça. Et là, il est dans une espèce de centre qui sont 8 ou 9 jeunes, avec justement 7 ou 8 éducateurs. C'est à Épinay, je crois que ça se passe bien pour l'instant.
Il a quel âge ?
Il a 16 ans. Pendant 3 mois, il restait constamment à la maison. Il devait faire des stages pratiques pour qu'il apprenne à un travail, mais enfin, il n'y allait pas souvent et ça ne lui plaisait pas tellement. Alors, il couchait chez nous et...
Roland rentrait de son collège et dormait tard ces matins-là. Je regardais tomber la neige en finissant mon chocolat. Je voyais Lise à la fenêtre en contre-jour et dans un coin. Papa relisait une lettre en tenant maman par la main. Alors j'ai pris pour moi tout seul la tendre image dans mon cœur. Et d'aujourd'hui jusqu'au linceul, ce sera celle du bonheur.
Du quotidien à l'exceptionnel, des situations les plus tristement banales aux plus dramatiques, un grand nombre d'associations se préoccupent aujourd'hui du sort de l'enfant. Alors écoute au téléphone, dans des permanences, dans la rue ou agissant pour faire respecter leurs droits devant la justice. L'enfant placé en institution, l'enfant qui n'est plus adoptable, l'enfant abandonné ou maltraité. Mais presque toutes font le même constat. Dans tous les cas, ces enfants sont issus eux-mêmes de familles très isolées. D'où l'urgence de responsabilités nouvelles. Il s'agit de proposer un meilleur accueil matériel et moral à celles qu'on nomme les mères célibataires.
En ce qui me concerne, c'est un choix. Alors pour d'autres, ça peut être un problème, mais pour moi, c'est un choix. Bah, donc, c'est moins un problème que pour d'autres, certainement, parce que moi, j'ai choisi. J'ai décidé d'être précisément seule à élever un enfant. Alors, il n'empêche que de toute manière, il y a des tas de problèmes qui viennent se greffer. Administratifs, financiers, enfin tout. Voire même d'ailleurs psychologiques. Hein, que ce soit pour inscrire votre gosse à l'école, on commence déjà par vous poser des tas de questions et à pas comprendre pourquoi il n'y a pas de papa ou inversement, il n'y a pas de maman.
Sur le plan matériel, il est très difficile d'élever seul un enfant.
Oui, alors là oui, absolument.
Vous travaillez ?
Non, justement. Avant, je travaillais. Maintenant, je ne travaille plus pour des raisons de santé. Donc là, c'est extrêmement difficile, par contre. Très, très difficile.
Alors, est-ce que vous essayez d'obtenir les aides auxquelles vous pensez?
Ah oui, mais alors là, je pourrais vous en donner 3 tomes. Hein. C'est atroce, là. Parce que précisément, là aussi, vous êtes pénalisé.
Vous avez de la famille autour de vous,
non.
Sur Paris?
Non.
Non.
Aucune famille sur Paris, personne.
Donc votre fille n'a que vous?
Voilà. Nous sommes, comme elle dit, nous sommes toutes les deux. Voilà. Tranquille. N'est-ce pas, Sam?
Ouais.
Ouais.
Vous avez travaillé jusqu'à quand?
Jusqu'il y a un an et demi, là. Et puis bon, ben, la maladie s'est installée. On n'a pas eu de peau, hein. On s'en est vu quand même beaucoup, beaucoup, là, en quelques temps. On s'en est bien pris, hein. Mais bon, à nous deux, nous serrons les coudes. Et puis bon, mais Samantha, si elle dit qu'elle n'en souffre pas, c'est bien. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas d'avoir choisi cette façon de vivre, hein.
Quel avenir voyez-vous pour Samantha?
Bah écoutez, je ne vois rien. Tout le bonheur que je lui souhaite, c'est de trouver un bon équilibre, hein, d'être bien dans sa peau, heureuse, et puis surtout de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais déjà, elle est battante. Alors, avec le caractère qu'elle a, je doute fort qu'elle se laisse trop marcher sur les pieds. Elle se battra.
Marie-Laurence, vous dites que vous avez donc cessé de travailler.
Mmh.
Alors, comment vivez-vous toutes les deux aujourd'hui?
Alors, allocation familiale. J'attends depuis 3 mois maintenant une allocation d'adulte handicapé parce qu'on m'a enlevé une tumeur au mois de juillet. Et puis, eh bien, par exemple, il y a peu de temps, j'ai téléphoné donc à la Cotterêpe pour savoir dans combien de temps est-ce que ça allait venir. Ils m'ont dit, bon, bah, faut compter le mois d'avril, mais ça a été demandé au mois de novembre.
C'est-à-dire l'organisme qui doit en principe
vous
donner cette allocation.
Et en attendant, eh bien, il faut faire avec. Avec, alors, 1 717,17 francs d'allocation familiale.
Et un loyer important?
842 francs. Faites la différence. Elle est vite faite, hein? Elle est vite faite. Et puis, il faut attendre.
Est-ce que vous avez le sentiment que dans une ville comme Paris, Boulogne en l'occurrence, où vous habitez, beaucoup de gens sont seuls, comme ça, en face de la vie, des difficultés matérielles, de l'administration, de l'affection?
Oui. Ça, j'en suis convaincue. Je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui se sentent vraiment seuls et puis désemparés, et puis qui n'ont pas d'ailleurs tous forcément le QI pour faire front ou pour dire, bon, il y a tel texte qui existe, il y a telle et telle chose.
Ou le tempérament pour se battre, comme vous semblez l'avoir.
Le tempérament pour se battre, exactement. Puis au bout d'un moment, vous savez, quand vous écroulez sous 15 tonnes de dossiers ou de paperasse à remplir, on vous les renvoie, on vous dit que c'est pas complet, etc. Au bout d'un moment, les gens en ont tellement marre qu'ils attrapent tout, puis ils virent tout, ils disent tout. Et ils laissent passer des tas de choses comme ça. Mais au bout d'un moment, il y a la lassitude aussi. Ce qui fait que les gens se retrouvent seuls dans la panade parce qu'ils sont écœurés.
Françoise Dolto.
C'est surtout parce qu'il y a peu de personnes dans la famille. Vous me parliez tout à l'heure de ce drôle de mot de famille monoparentale. C'est pas une famille. Une mère et un enfant, c'est pas une famille. Déjà, c'est une famille nucléaire, père, mère, enfant. Mais c'est déjà 3. Et 3, il y a un échange. Parce que si 2 parlent, le troisième peut se faire des réflexions par rapport à ces 2 qui parlent. Mais quand on est en miroir, l'enfant, la mère, ou l'enfant, le père, ou 2 enfants tout seuls, c'est pas du tout la vie qu'il y a dès qu'il y a 3 personnes. Alors, c'est vrai qu'il y a une très grande solitude dans la vie familiale, et je crois même pour les adultes. Je crois qu'actuellement, les gens souffrent beaucoup de solitude, alors que ils sont bousculés par tout le travail qu'il y a à faire à la maison, mais ils sont tout seuls. Alors qu'on peut très bien être seul comme être humain et ne pas souffrir de la solitude. Mais on en souffre plus quand on a des humains avec qui on ne pourrait pas parler de ce qui vous tient à cœur. Il y a un manque de communication. Alors, moi, je parle particulièrement de Paris, parce qu'en province, les gens se racontent des potins les uns sur les autres. Et je pense que ce potinage des provinces, eh bien, c'est une manière de lutter contre la solitude. Et comme à Paris, on ne potine pas, c'est très particulier, la ville de Paris, dans la liberté qu'on a de vivre, mais ça a comme contrepartie une solitude plus grande qu'en province, parce qu'il n'y a pas des inventions, des calomnies, des médisances sur les voisins, ce potinage. Ben, il a fait ci, il a fait ça, il vit comme ça, etc. Ça a occupé les gens.
On est 10 à coucher dans le lit de la puissance, mais devant ces armées qui s'enterrent en silence, on se retrouve seul. On est 2 à vieillir contre le temps qui cogne, mais lorsqu'on voit venir en riant la charogne, on se retrouve seul.
Noémie, dont les enfants sont partis. Messieurs, j'ai décidé de vous écrire pour vous faire part de ma propre expérience en matière de solitude et de vous faire part aussi de mes suggestions. En effet, il y a de nombreuses années que je suis seule. Quand les enfants s'en vont, font leur vie, alors là c'est le vide, la solitude qui s'installe, qui dure tout au long des journées. Vous n'avez plus goût à rien, aucune envie de sortir. Aller seule au cinéma, cela manque de charme, vous ne trouvez pas ? On ne peut partager avec personne les réactions que le film vous a inspirées. Alors vous restez chez vous et votre vie est faite de travail, préparation des repas, lessive. Et puis la vie passe et vous ne profitez de rien de ce que la vie a de bon. Le pire, c'est lorsque, comme moi, vous n'avez même pas de famille. Il y a des moments, je vous le dis, où on voudrait couper le fil qui vous rattache à la vie. Aussi, si j'étais riche, j'ouvrirais pour les gens seuls une maison qui serait la leur, avec cafétéria, bibliothèque, discothèque, jeux de toutes sortes. On s'y retrouverait avec joie, on y serait bien, comme chez soi, mais avec les contacts en plus. Voilà ce qui manque le plus dans le monde actuel, les contacts, la gentillesse, un mot par-ci, par-là qu'on vous dit et qui montre qu'on existe.
Noémie, comme bien d'autres, a envoyé sa lettre à l'Union des associations en lutte contre la solitude. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces associations, et leur multiplication, la variété des services qu'elles proposent, en disent assez sur l'ampleur du phénomène. Elles viennent, fort heureusement, s'ajouter à d'autres activités nettement moins désintéressées, celles des agences matrimoniales, car la solitude est aussi un excellent marché. Sur ce surprenant élan de générosité, l'opinion de Jean-François Six.
Oui, je crois que ça correspond à un besoin du temps. Et alors, ça n'est pas encore arrivé. Vous savez que les associations, au fond, font souvent un travail de débroussaillage. Bon, les pouvoirs publics, l'opinion publique, les politiques sont souvent un peu à la remorque pour un certain nombre de problèmes d'un certain nombre de gens, disons plus originaux, qui suscitent des associations, qui aperçoivent les problèmes un peu à l'avance. Or, pour moi, la solitude est un problème politique. Les solitaires sont des êtres atomisés. Ils sont chacun dans leur coin. Par définition. On va pas dire solitaire de tous les pays, unissez-vous. La chose la plus grave, c'est que un solitaire se dit qu'il est seul au monde. Mais c'est-à-dire qu'il ne pense pas qu'il y a des millions de gens qui sont dans la même situation que lui. Alors, toute une série d'associations qui sont nées parce qu'ils ont perçu, à la base, cette solitude, d'ailleurs, ces solitudes, parce que les solitudes sont très différentes, mais des solitudes de toutes sortes de gens d'aujourd'hui. Et il devait presque y avoir un ministère de la solitude. C'est paradoxal, mais je crois que c'est juste.
Jean-François Assic, c'est un phénomène urbain, à votre avis, cette amplification de la solitude, puisque on sait notamment, vous parlez du suicide tout à l'heure, qui était traditionnellement plus fréquent dans les campagnes que dans les villes.
Oui.
Donc les manifestations de grand désespoir, je veux dire. Est-ce que c'est donc un phénomène urbain ou est-ce qu'on peut retrouver on peut le retrouver aussi dans les campagnes, dans les zones plus isolées?
C'est partout maintenant. Et c'est partout et dans tous les milieux, dans toutes les régions. Bon, vous avez par exemple en France, dans le Limousin, il y a 150 000 hommes célibataires. Parce que la vie est très dure à la campagne dans la région Limousin. Les hivers sont durs. Alors, les filles vont travailler en ville et veulent se marier en ville. Elles ne veulent pas avoir mené la vie extrêmement dure de la femme mariée. Elles préfèrent même être célibataires en ville que femme mariée à la campagne. Alors, il y a de plus en plus d'hommes qui vivent seuls parce que auparavant, les hommes trouvaient assez facilement à se marier. Les femmes ont conquis une certaine façon de vivre seule. De plus en plus de femmes sont capables de vivre seules et affectivement se disent « je préfère vivre seule que me marier n'importe comment ». Alors je crois qu'il faut regarder juste à côté de soi. Il y a des êtres seuls et un être seul, c'est pas un être qui demeure dans une stabilité de situation. La solitude s'aggrave de plus en plus, c'est-à-dire qu'on s'enferme de plus en plus en soi-même, on n'arrive pas à faire ce premier pas pour s'en sortir par soi-même, parce qu'il faut s'en sortir par soi-même et permettre ainsi à sa vie de prendre une autre tournure, de passer d'une solitude passive, écrasante, à une solitude constructive. C'est ça le but.
Thérèse, 28 ans sans amitié. J'ai trouvé votre adresse. Je ne sais pas si vous me répondrez. Mais je voudrais vous dire que l'isolement, la solitude, ne concerne pas seulement les personnes âgées. J'ai 28 ans et je n'ai aucune amie, aucun ami. Je vis dans une solitude telle que je pense au suicide. Je ne comprends pas pourquoi je suis seule à ne pas pouvoir me faire d'amis. Les autres semblent tellement heureux. Et pourtant, j'essaie. Je suis inscrite depuis 2 ans dans une agence matrimoniale qui n'a rien donné à ce jour. Vraiment, je suis vidée de tout idéal. Je n'ose plus sortir, sauf pour aller travailler. Et là aussi, dans un isolement total. Lyon est pourtant une grande ville, mais la chaleur humaine manque. Je pense même que si un jour je me suicide, il n'y aura personne à mon enterrement pour me regretter. Je ne sais plus quoi vous dire. Je traverse des situations de culpabilité et de déchéance humaine. Je vous le demande, que faut-il que je fasse? Vivre comme cela ou en finir? Yvonne et la solitude du corps. Pourquoi? Est-ce que j'avais pas droit à être vivante comme femme? À trouver un homme avec qui j'aurais pu faire ma vie? À l'avoir chaque nuit dans mon lit? Diane, ma fille, m'a dit, il y a 2 mois, qu'elle avait connu le plaisir. J'ai perdu mon temps. Je vais perdre ma vie. Je suis seule sur ce plan, sauf de temps en temps, par intermittence. Et je ne suis pourtant pas laide. Mais quand on prend ainsi du retard, la solitude s'installe insidieusement. Elle devient une lèpre. On a la peau atteinte. On doute de soi-même. On ne croit plus que le corps a droit au chapitre. Je le regarde, ce corps, dans ma glace, et je me dis qu'il est une épave, toute seule.
Allô? Alors, Comment s'est passée la journée hier? Ah, c'est un petit peu mieux, vous avez pu sortir. Comment s'est passée la nuit? Ah, ben tant mieux. Bon, vous avez pu manger un petit peu? Et ces problèmes circulatoires, vous avez vu le médecin? Mais vous devriez changer de médecin. Vous savez, quand ils vous voient trop souvent, ils finissent par s'habituer. Il faut essayer de prendre un autre médecin. Et puis, méfiez-vous un peu des médicaments aussi. Bon, en tout cas, vous savez que vous n'êtes pas seul. C'est important. Alors, n'hésitez pas, quand je vous appelle, s'il y a des problèmes, vous me les posez, on essayera de les résoudre ensemble. Faut pas, je sais bien, la famille vous ignore. Ça, c'est aussi un gros problème. Ne soyez pas trop centré sur elle. Ça vous fait du mal et ça vous détruit finalement. Enfin, je pense bien à vous et je vous souhaite bon courage et je vous embrasse très fort. Au revoir.
Pierrette Alterman est téléphoniste bénévole pour l'association L'Amitié au bout du fil. Cette association est née d'une prise de conscience de l'isolement des personnes âgées après l'installation chez elles par les services sociaux du téléphone. Elle propose donc avec elle un contact régulier, amical, contact entre une téléphoniste sélectionnée par les responsables de l'association et une personne qui pourrait avoir avec elle des goûts communs. Un service donc un peu différent d'SOS Amitié, peut-être plus connu, qui elle propose une action immédiate pour des appels d'urgence avec un écoutant différent, ayant d'ailleurs reçu en général une formation spécialisée. D'autres associations sont de la même manière à l'écoute des enfants de 10 à 15 ans par exemple, ou des jeunes, ou des drogués, ou bien même se chargent de leur écrire régulièrement pour remplir les boîtes aux lettres. Pour toutes, le même but, très simple, rompre la solitude, Pierrette.
Oui, je fais ça environ depuis 7-8 ans, et je suis d'ailleurs moi-même handicapée physiquement, et cela me donne le sentiment de ne pas être complètement inutile. Le téléphone est l'invention, à mon avis, la plus merveilleuse de notre époque. Elle permet une liaison entre les gens qui sont seuls, les gens qui sont isolés, les gens qui sont âgés, et je dois dire que, bien entendu, ça n'est pas toujours facile. Il faut du tact. Il faut de la patience, on est un peu confesseur, quelquefois ça devient de l'amitié, quelquefois il y a tout de même des points trop divergents, il peut y avoir des natures trop différentes, mais dans l'ensemble, cette liaison téléphonique, c'est une aide concrète.
Qui sont les gens que vous appelez, Pierrette, en ce moment par exemple, ceux que vous appelez régulièrement ? Qu'on ait un petit peu une idée de vos interlocuteurs.
C'est assez variable. C'est assez varié. Vous pouvez tomber sur un célibataire qui a 70 ans, qui voit la fin de sa vie s'écouler d'une façon un peu monotone, qui a des problèmes circulatoires, qui se sent déjà un peu rejeté. Ça peut tomber sur des gens dépressifs, tous ces gens-là se sentent seuls. Il y a aussi des personnes dont les familles existent encore et qui sont aussi seules que si elles n'en avaient plus, ce qui les révolte. Ça peut tomber sur des gens qui n'entendent jamais le téléphone sonner parce qu'ils n'ont même pas d'amis, parce qu'ils vivent dans la maladie de notre époque, l'indifférence. L'amitié est au bout du fil. Mais s'il se crée, cela peut arriver, de réels liens d'amitié, il est évident qu'à ce moment-là, on peut éventuellement laisser son numéro de téléphone, bien que ça peut présenter aussi certains inconvénients, mais enfin, en principe, nous ne le faisons pas. Mais si vraiment il se crée des liens plus forts, ce qui peut arriver, on peut éventuellement se rencontrer. Ça n'est pas une chose ni interdite ni défendue, bien entendu.
Et puis, lorsque l'on parle de solitude, on entend souvent parler aussi de... On a le sentiment que les gens qui souffrent de solitude souffrent aussi de manque d'utilité, c'est-à-dire se sentent inutiles à la société. D'ailleurs, vous l'avez bien expliqué vous-même, vous avez beaucoup tenu à faire ce travail pour cette raison. Est-ce que là aussi, vous essayez de cette façon de les raccrocher à une activité, ne serait-ce qu'en leur demandant de faire comme vous?
Pourquoi pas? La question santé joue, bien entendu. La question âge joue, la question mémoire. En général, j'essaye en tout cas de leur faire ressortir ce qu'il y a de positif à travers leur négatif. Et puis je vais vous dire autre chose. J'essaye de les faire rire. Personne ne pense à ça. Le rire est le propre de l'homme. Et quand vous arrivez à faire rire quelqu'un qui est uniquement centré sur lui-même, c'est comme un éclatement, c'est comme un apaisement.
En 1985, le Secours catholique avait choisi pour thème de sa campagne la solitude. Choix dicté par l'observation quotidienne, solitude et pauvreté sont bien souvent liés. Les chômeurs, les immigrés, les personnes âgées, les handicapés, beaucoup d'autres aussi. 60% des sollicitations reçues par le Secours catholique en 1984 étaient accueillies pour la première fois. Cette évolution importante justifiait l'apparition de nouvelles structures, comme cet accueil de jour créé à Paris pour un petit nombre de personnes et destiné à apporter avant tout un réconfort moral. Plusieurs hommes étaient présents ce jour-là autour de son fondateur, Paul de Cornuiller. La plupart ne désiraient pas s'exprimer sur leur situation.
Il n'y a pas tellement d'accueil de jour. Surtout de cette petite taille, il n'y en a pas. Ou à peu près pas. Et même les gros accueils de jour, il y en a 4 ou 5 sur Paris au maximum. Il y en a 2 qui ont vu le jour assez récemment au titre des mesures d'urgence. Avant, on n'y pensait pas, tout simplement parce que la population des sans-domicile fixe est considérablement accrue simplement ces dernières années, et qu'on a d'abord songé à parer aux besoins les plus urgents, comme la nourriture et le gîte, avec des foyers de courte durée, notamment. C'est après seulement qu'on a pensé aux accueils de jour. Et moi-même, d'ailleurs, quand j'ai commencé à m'occuper de cet accueil de jour, je ne m'apercevais pas à quel point l'isolement était un problème et à quel point il pouvait être rompu par un petit accueil de jour où on reçoit tranquillement les gens sans même les régler leurs problèmes sociaux sur place, mais simplement pour les recevoir. Et c'est le témoignage des personnes que nous recevions, c'est par ce témoignage que j'ai compris à quel point ça pouvait être utile.
Pour dire les choses clairement, peut-être, puisque c'est entendu que c'est la radio, je vais d'abord un petit peu décrire le décor. Il s'agit d'une très grande pièce, oui, effectivement assez chaleureuse et accueillante. Il y a des tapis par terre, il y a des, de quoi s'installer dans des coins différents. On peut jouer aux cartes, différents jeux. Enfin bon, on imagine un petit peu un grand salon, en fait, assez chaleureux. Et puis les personnes qui viennent ici, du moins pour celles que nous avons vues, n'ont rien de ce qu'on pourrait peut-être imaginer lorsqu'on parle de sans-domicile fixe, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de clochards, pour employer un mot très, très commun.
Non, encore que j'ai reçu plusieurs personnes qui, au début, venaient et avaient typiquement l'attitude de personnes qui vivent dans la rue. Et quand ils sont habitués à venir ici, peu à peu, en effet, ils changent d'apparence. Enfin, la plupart déjà avaient la plupart, hein, pas tous, c'était des personnes qui déjà dans la rue essayaient de se tenir bien et avec une apparence telle qu'on ne pouvait pas deviner la vie qu'ils vivaient. Ils luttaient au moins sur ce plan-là, y compris les 2 ou 3 que j'ai eus ici et qui ont vécu dans un parking pendant plus d'un an et qui fouillaient les poubelles, mais ça ne se voyait pas. Quand ils venaient ici, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils avaient une cravate et un pantalon repassé.
Les autres habitent dans des chambres d'hôtel que vous pouvez leur trouver ?
Pas très fréquemment. Lorsque l'un d'entre eux commence à trouver un travail, le service social de la rue d'Aubigny peut, au titre des mesures d'urgence toujours, pratiquer les 15 jours de nuit d'hôtel renouvelables. Mais ce n'est pas la majorité. La plupart arrivent à trouver un foyer payant, une fois qu'ils ont commencé à trouver un travail, ou bien alors, en attendant, se débrouillent avec des foyers non payants de courte durée.
Quelle est la situation familiale, en principe ?
Quelques-uns restent dans une cave ou dans la rue.
Ouais.
Pardon ?
La situation familiale, en principe, des personnes qui sont là ?
Presque systématiquement rompue. Soit avec la femme et les enfants, soit avec les parents. Souvent les 2.
Ici, par exemple, bon, si je cherche du travail, si je viens dans une ambiance comme ça, le soir, à la fin de la journée, c'est agréable. Parce que au lieu de perdre le moral, et justement, si bon, on peut jouer, c'est un stimulant pour la journée d'après. Donc on part pour une journée avec... Peut-être qu'on reçoit une énergie, je ne sais pas comment on appelle ça.
Quel âge avez-vous, Pascal ?
25.
Et vous cherchez du travail depuis combien de temps ?
Ben là, il y a un mois que je suis à Paris, parce que mon père il m'a mis à la porte, je viens de Haute-Savoie. Et puis bon, ben, je suis passé par la province pour trouver du travail, mais c'était au niveau de l'hébergement qu'il y avait un problème. parce que les structures ne permettaient pas de dépasser 5 jours ou 4 jours. Alors bon, ben, le problème, quand on cherche du travail, il faut un hébergement assez stable, assez fixe. Et bon, ben, j'ai dit, c'est pas possible, je vais pas continuer. J'ai fait au moins 4-5 villes comme ça. Et j'ai entendu qu'à Paris, il y avait des structures qui étaient plus longues, qui duraient un mois au moins. Alors j'ai dit, tiens, c'est une bonne idée. J'ai suivi mon intuition, j'ai dit, j'y vais.
Puis alors, arrivé à Paris, racontez-nous un peu comment vous avez fait. Là, vous avez débarqué à Paris, vous connaissiez personne.
Non, je connaissais personne, mais premier jour, j'ai dormi dans le métro. Et après, j'ai dit, bon, ça peut plus continuer comme ça. Maintenant, il faut que j'arrive à avoir un local. Et là, bon, bah, je suis passé à 24 sur 24. Ils m'ont donné une liste d'adresses. Puis bon, ben, à partir de cette liste d'adresses, j'ai commencé à regarder et tout. Puis j'ai dit, je vais aller voir à l'ami de pain tout. Puis j'y suis allé, mais c'était rien que des clochards. Bon, les clochards, bon, ce sont des
atouts. C'est un endroit où quoi, on peut avoir un repas ou...
Ben, c'est l'armée du salut. Il y a un repas le soir, et puis on dort la nuit. Mais le problème, c'est au niveau de l'ambiance, du contexte. Et les mentalités sont très différentes. C'est-à-dire que moi, la mienne, elle ne correspondait pas du tout. Je ne suis pas mieux qu'eux, mais disons que... On est trop différents, c'est-à-dire que les clochards, c'est les clochards. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être choisi leur vie comme ça. Ils buvaient beaucoup, puis très agressifs. Vraiment, 400 personnes là-dedans à dormir, entassés un peu comme des bêtes, hein, je dirais.
Alors Pascal, donc vous arrivez de Haute-Savoie. Ouais. Vous avez donc quitté votre famille pour des raisons. Vous dites que votre père vous a demandé de partir.
Oh oui.
Mais en tout cas, c'était évidemment quitter des gens que vous connaissiez, un endroit que vous aviez l'habitude de vivre. Oui. Et donc vous êtes brusquement retrouvé un peu seul. Est-ce que c'est ça qui a été le plus dur?
Non, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis assez timide de nature. Mais bon, quand je suis arrivé à Paris, je sentais les gens, ils ont tous un masque. Voilà, l'idée d'un masque. Les gens avaient une apparence assez dure, mais je savais qu'au fond d'eux-mêmes, ce n'était pas eux. Ils avaient un masque dur, mais ils sont prisonniers dans un système, un tourbillon. Pour moi, c'est un tourbillon. On n'y échappe pas et on ne peut pas faire autrement. Mais aussi, voilà, au niveau des relations humaines, je crois que dans les grandes villes, il faut se faire d'abord des amis, si on n'en a pas. Ou si on n'en a pas parce que notre position sociale d'un coup l'a chuté, alors on perd tous ses amis. Mais malgré tout, j'estime que l'être humain est quand même social, il faut qu'il se fasse des amis. Et d'ailleurs, même les clochards, entre eux, ils sont amis, et ça prouve bien que ça leur permet de tenir le coup, parce que tout seul, c'est très difficile. Et ça, à tous les niveaux. L'être humain a besoin d'être avec quelqu'un, ou moi j'ai besoin des fois d'être avec une fille, ou des fois avoir besoin des amis, parce que je ne peux pas vivre tout seul, je suis pas... Bon, c'est marrant, je me fais des amis sans m'en faire, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais vers eux, puis en même temps, je me retire, parce que je suis un truc très solitaire, puis en même temps très social chez les deux.
Rôdant toute la journée, perdu comme un chien. Rôdant toute la journée, perdu comme un chien.
J'ai déménagé 9 fois et ce que je veux dire d'abord, c'est que ces 9 déménagements ont été vécus différemment. En réalité, déménager jeune ménage ou avec 2 jeunes enfants est peut-être différent en ce sens que on forme plus bloc, toute la famille déménage en même temps, on a besoin les uns des autres. Ça se passe plus facilement et sans grand problème. Par contre, je voudrais plutôt parler des 2 derniers déménagements que j'ai vécu là. Et alors l'avant-dernier, qui était un déménagement en province, je suis arrivée dans une ville où je ne connaissais personne et j'ai vu qu'il existait une association qui organisait un pot d'accueil pour les nouveaux arrivants de la ville. Je dois vous avouer que à partir de là, je me suis intégrée avec une facilité remarquable. Bon, ça, ce fut l'avant-dernier déménagement. Puis, armée pourtant, j'ai dû ensuite repartir pour la banlieue parisienne. Je suis arrivée dans cette petite ville où je croyais retrouver un accueil et il n'y en avait pas. Je me suis retrouvée très rapidement chez moi, toute la journée, seule. Je ne travaillais pas.
Votre mari travaillait ?
Oui, mon mari partit donc de 7h30 le matin jusqu'à 19h le soir. Et de grands enfants, des enfants en études universitaires, qui n'étaient donc plus chez moi, je me suis trouvée vraiment désemparée. Seule, aucun contact avec les voisins. J'avais personne... Ouais. N'était venu sonner à ma porte, et j'avoue qu'il a fallu 4 à 5 mois pour que j'arrive à réagir. C'était vraiment vide.
Est-ce que vous avez essayé de rencontrer vos voisins d'une manière ou d'une autre ?
Non, je dois vous avouer que quand on arrive comme ça, et qu'on n'est pas armé pour aller au-devant des voisins, il faut un certain temps pour retrouver le courage d'aller sonner aux portes. Et puis je me disais, dans le fond, s'ils ne viennent pas à moi, je ne les intéresse pas. Pourquoi je vais aller m'imposer à eux ?
Comme Françoise, 25 millions de Français ont changé de logement et de lieu de résidence au moins une fois dans leur vie et 1,5 million de personnes déménagent chaque année. Les accueils des villes françaises, dont la création est liée au mouvement de décentralisation des années 60, sont aujourd'hui au nombre de 540 et ils se développent aussi à l'étranger pour les Français qui partent à l'étranger. Leur objectif, faciliter les démarches pour une première installation, où qu'elle soit, installation souvent plus difficile qu'on ne le pense.
Les accueils ne doublent jamais ce qui existe. Donc la NPE existe, l'Agence pour l'emploi existe.
Marie-Vonne Leroy.
Des problèmes d'emploi. Nous ne sommes pas habilités à résoudre des problèmes d'emploi. Ça, c'est effectivement une des grosses questions à l'heure actuelle. Mais en général, quand on change de ville, c'est qu'on a un emploi quelque part. Celle qui n'a plus d'emploi, c'est la femme qui a suivi son mari, qui le perd dans tous les cas, et qui le retrouve quelquefois au bout d'un an, quelquefois qu'il ne le retrouve pas.
Le plus souvent, parce qu'on commence à voir l'inverse, voilà. Mais enfin, c'est encore plus rare.
Et quelquefois, alors elle ne quittera pas l'autre ville, et on aura donc des ménages qui vivront l'un à Paris et l'autre dans le sud de la France. On en connaît de plus en plus de ménages éclatés pour ces raisons de perte d'emploi. Bon. Alors, on propose donc des informations sur tout ce qui existe dans la ville. Et puis aussi, on s'est rendu compte que les informations, c'était très bien, même si elles étaient présentées avec chaleur et accueil. Mais ça ne suffit pas quand même. Derrière ces questions posées, on s'est rendu compte que les gens qui venaient d'arriver avaient besoin, en vérité, d'en rencontrer d'autres, de se recréer un tissu d'amis au travers d'activités qu'on appelle activités de rencontre et qui sont aussi variées que les accueils, c'est-à-dire... qui peuvent être des activités culturelles, touristiques, sportives, festives, dépôts, tout ce que vous pouvez imaginer. Chaque accueil est très créatif, très inventif, et il fait ce qu'il a envie de faire, qui correspond à sa population. Donc nous essayons, c'est un des gros boulots des accueils, nous essayons de repérer ces gens qui déménagent. Ça, c'est un très gros boulot. Nous essayons de le faire en liaison avec les entreprises qui, justement, décentralisent ou créent du tertiaire dans tel ou tel endroit. Nous sommes des partenaires pour ces entreprises et nous leur proposons même des opérations de pré-accueil. C'est-à-dire, quand les gens savent qu'ils sont mutés quelque part, nous proposons de leur faire connaître la ville avant même d'y arriver. Ce qui fait que quand ils arrivent dans la ville, ils sont accueillis. C'est tout à fait différent.
Que vous disent les gens qui viennent vous voir en principe ? De quoi souffrent-ils surtout ?
Ouais, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « si j'avais connu les accueils, je me serais évité 6 ans de dépression ».
J'ai beaucoup déménagé. Hein. Depuis mon enfance, ma vie a été un voyage. Partie d'Alsace vers l'Afrique, vers le centre de la France, Paris, Marseille, des petits patelins, des grandes villes. Ce sont des expériences chaque fois que j'ai vécu très très différemment. Et moi personnellement, quand j'arrive dans une grande ville, ça m'est beaucoup plus facile de faire mon réseau de relations, de m'intégrer, que quand j'arrive dans un milieu plus rural, plus campagnard.
Et est-ce qu'on peut parler aussi de la solitude d'une famille dans son entité ? Je veux dire, est-ce que votre famille, arrivant dans une ville, donc mari et enfant, je ne sais pas, vous avez combien d'enfants ?
J'ai trois enfants.
Hein, donc est-ce que vous avez ressenti cette solitude collective ?
J'ai ressenti cette solitude collective, mais aussi très différemment suivant l'âge des enfants. Quand vous arrivez avec de jeunes enfants que vous inscrivez, soit en maternelle, soit dans le cycle primaire, il y a tout de suite des problèmes pratiques qu'il faut régler, je dirais, les uns avec les autres. Les enfants ne sont pas autonomes, par conséquent, immédiatement s'organisent des transports avec la voisine. Les associations de parents d'élèves ont beaucoup d'influence aussi. Lorsque l'enfant grandit, il a à découvrir aussi son autonomie, et en particulier au moment de l'adolescence. Hein. Et au moment de l'adolescence, il est très difficile pour le jeune de sortir d'un contexte pour découvrir quelque chose de tout à fait nouveau. Je pense par exemple à notre expérience personnelle. J'ai trois filles qui se suivent de très près, qui ont eu la chance de faire corps entre elles, mais elles n'ont jamais été 2 ans consécutifs dans le même établissement scolaire. Et il y en a une pour laquelle ça a été terrible. Il faut que les populations stables le sachent aussi, et en particulier dans la France profonde, qui a besoin de cette mobilité, parce que nous passons dans une société qui est, surtout la France profonde, était très rurale. Elle a besoin, pour étant donné l'évolution de l'agriculture, elle a besoin pour vivre, quelquefois pour survivre, de l'implantation d'industrie. Donc que des gens de l'extérieur viennent chez eux. Il faut que l'accueil qu'ils réservent soit pas simplement l'accueil de la nécessité. On prend ce dont on a besoin. Il faut donner aux personnes qui viennent chez vous l'occasion d'exister pour ce dont elles ont envie, elles aussi. Ça, c'est très important. Quand on dit on est un petit peu dépressif, quelquefois, lorsque l'on se retrouve comme ça dans cette situation-là, c'est parce que l'on n'est pas reconnu.
Ça vous est arrivé ?
Oh, très fort, très 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 fort. On a besoin d'exister pour soi-même. Quand vous vous faites dire par quelqu'un « je ne vous ai jamais rencontré » et que c'est un cri du cœur, mais ça fait 2 ans que j'habite la maison en face de vous, vous êtes atteint profondément en vous disant « mais c'est pas possible, ces gens, ils voient pas ce qui se passe autour d'eux ». Et on a besoin d'être valorisé dans ce que l'on est. Notre vie n'a un sens que si on sert à quelque chose. Et surtout quand on avance dans la vie familiale, parce qu'on n'a plus les enfants justement pour lesquels on est une nécessité.
Ce qui est très frappant dans ce que vous dites sur le sentiment de l'inutilité, c'est que c'est un discours auquel il me semble nous a habitués par rapport aux personnes âgées. On sait que les personnes âgées souffrent beaucoup de ce sentiment de ne plus servir à personne, exactement, surtout lorsqu'elles sont placées dans des établissements ou même lorsque les familles ne viennent plus les voir. Et c'est très frappant d'entendre cela chez des mères de famille comme vous, apparemment affectivement bien entourées.
Très bien entourées. Mais sentir que l'on a des talents, hein, qu'on a acquis une certaine expérience, mais que l'on ne veut pas que vous la viviez pour vous-même parce que ce serait d'autres qui seraient dépossédés de leur pouvoir, c'est assez difficile à vivre.
Et c'est aussi cela, la solitude.
Ça, c'est la solitude. Remarquez que pour s'en sortir, ça oblige à un dépassement de soi-même. Alors cette solitude, elle a aussi un côté qui est très positif, c'est-à-dire que ça oblige à une grande richesse intérieure.
Françoise Dolto, on a le sentiment, et peut-être est-ce aussi une découverte récente au fond du siècle, que la solitude est un mot qui fait peur, est un état qui fait peur. Est-ce que pourtant, à votre avis, il peut y avoir une bonne solitude, celle qu'on recherche par exemple les intellectuels, enfin les écrivains, les créateurs?
La preuve même que la solitude peut être féconde, c'est la recherche que font ces gens qu'on appelle des solitaires et la méditation. Il n'y aurait pas de culture s'il n'y avait pas de solitude. Il faut avoir cette impression de solitude pour travailler, pour préparer la communication intéressante, profonde, avec d'autres personnes, ou même avec soi-même. La méditation que certaines personnes savent faire, c'est un travail, c'est pas un retour obsessionnel sur soi-même, pas du tout. Ça peut être véritablement un moment de maturité et de préparation à une communication beaucoup plus riche que celle qu'on avait avant.
Alors au fond, pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à bien vivre avec sa solitude?
Car on sait que pouvoir parler avec d'autres,
de la solitude, sans croire que c'est ni mal, ni péjoratif, ni pathologique de rechercher la solitude. Je vous dis ça par exemple, il y a des enfants qui ont besoin de solitude, qui sont en classe. Bon, ils voudraient ne pas aller en récréation et rester en classe, tranquille. Ils s'assoiraient dans un coin, ils ne feraient rien, ils regarderaient une feuille, un caillou, rien. Eh bien, on ne les laisse pas. Un enfant qui a besoin de se ressourcer sur lui-même dans une solitude positive, pas du tout de fuite des autres, mais de ressourcement sur soi-même, c'est une chose que les adultes comprennent très mal. Il y a certaines natures d'enfants qui ont besoin de beaucoup de solitude, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas non plus la compagnie, mais c'est un rythme alterné qui leur permette de repartir en bon état affectif, émotionnel. Ils ont peut-être pensé à leur mère, pensé à quelqu'un. On ne sait pas. Et d'ailleurs, il ne faut pas le leur demander. Mais quand on voit un enfant serein et solitaire, il faut lui dire, tu es bien là, tout seul, tu es bien. Allez, continue, c'est bon la solitude. Il faut lui dire, c'est bon aussi la solitude. Quand elle n'est pas, parce qu'on est rejeté par les autres. C'est la solitude avec soit le sentiment de rejet, soit le sentiment d'impuissance à communiquer avec les autres, qui est mauvaise.
La solitude pour compagnie, c'était une émission de Dominique Rousset. Prise de son, Jean-Paul Beaugelet. Mixage, Michel Miroux. Réalisation, Brigitte Aléo. Vous pouvez obtenir la liste des associations citées dans cette émission et de beaucoup d'autres d'ailleurs en nous écrivant à l'émission Grand Angle, Dominique Rousset, maison de Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy à Paris dans le 16e. Et puis on lira avec beaucoup de profit l'ouvrage de Jean-François Six, Le Guide des Solitudes, paru aux éditions Fayard, et celui de Françoise Dolto, Solitude, aux éditions Vertige.
C'était La solitude pour compagnie, une émission de Dominique Rousset réalisée par Brigitte Aléo avec Jean-François Six, Françoise Dolto, Dominique Claire et Martine Brousse. Une émission diffusée pour la première fois le 12 avril 1986 sur France Culture.